RMC Running.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Je suis toujours en compagnie de mon cher Johan Durand. Comment vas-tu?
Salut Amine, salut à tous. Bah écoute, impeccable. Hein.
Ça va?
On se régale.
Samedi?
Ah là, ça avance et là, c'est le moment intéressant. Il y a les grandes courses qui sont parties. On va débriefer toutes les autres courses.
Exactement.
Donc voilà, on est au cœur du réacteur.
On a déjà eu deux des trois finales UTMB World Series qui se sont terminées.
Ouais,
et puis là, c'est
magnifique.
La dernière UTMB,
c'est
la
ça.
Grande
Ils
course.
Ils sont sur le parcours. On est en train de regarder les lives, à regarder tout ce qui se passe. Ouais.
Et avec des performances, notamment celle de Blandine Lerodel qui sont astronomiques.
Ah, des performances de ouf chez les hommes comme chez les femmes, ouais. C'est magnifique.
Les Français se sont illustrés cette semaine, notamment sur la CCC avec 4 Français dans le top 10. C'est incroyable, la CCC, c'est le format 100 km notamment, avec Marie Goncalves, 9e du classement, et Anthony Felmer également, 10e du classement. On va débriefer de toute cette course avec Yuan, on est parti. Hein. Attachez vos lacets, enfilez vos baskets, c'est parti pour le débrief de la CCC. Bonjour Anthony.
Bonjour Amine.
Comment vas-tu? Les jambes un peu lourdes, j'imagine.
Les jambes un peu lourdes, mais ça va, étonnamment, je m'attendais à être plus cassé que ça quand même.
Ça sera demain. C'est 48 heures, non?
Ouais, c'est ce qu'on dit, donc on va voir. Je vous ferai des débrief demain.
Il est encore bien là, ouais.
10e de la course, félicitations.
Merci beaucoup.
Comment ça s'est passé?
C'était plutôt une belle découverte, c'est ma première longue. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais venu pour vivre l'expérience de faire 100 kills. Et je suis trop content parce que le but c'est quand même de réussir à être dans le top 10, ça fait toujours plaisir.
Ouais, carrément. Donc, et puis tu viens de Chamonix, Annecy.
Exactement,
à la maison.
Enfin, après, je me serais contenté déjà d'un beau finish pour une première.
D'une belle course, ouais.
Exactement. Mais c'est encore mieux de pouvoir monter sur le podium le lendemain, ça fait plaisir.
On va parler un peu de tout ça tout à l'heure dans ce podcast. Et j'ai également avec moi Marie Goncalves. Comment vas-tu?
Écoute, j'ai un peu peur parce que Yoann indique que les courbatures arrivent au bout de 48 heures. Moi, elles sont déjà là.
Déjà là, toi?
Donc, je me dis que dans 48 heures, j'ai pas hâte, quoi.
Demain, faudra l'ascenseur.
Ouais, bon, ça, c'est vrai que je l'ai vu marcher. C'est vrai que c'est un peu dur.
Ah, c'est...
Et puis, il faut le dire, après une course, t'es arrivé à peu près à 22 heures. C'est compliqué de se rendormir, notamment avec la nutrition pendant la course où vous mangez beaucoup de glucides. Et forcément, c'est un impact sur la récupération.
Ouais, on mange toutes les 40 minutes à peu près un gel de 30 grammes de glucides, sans compter notre boisson. Donc, du coup, quand tu vas te coucher à minuit, déjà, tu n'as pas beaucoup mangé avant du solide. Donc, corps,
il comprend pas trop.
Non, il comprend pas trop. Ouais. Donc, globalement, cette nuit, ça a été une petite nuit de 2 heures pour moi. Donc,
On aurait pu enregistrer le podcast plus tôt alors.
Moi, j'étais prêt aussi toute la nuit.
Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, on aurait dû faire un truc en nocturne, tu vois, 23h, by night, minuit.
Ça va arranger tout le monde. Au final,
ouais.
Première de la Saint-Élion, il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu es sur un autre format, ici en montagne. Quelle différence tu vois entre ces deux courses?
La Saint-Élion, on court quand même tout le long. J'ai pas les bâtons. Là, j'avais les bâtons c'est, on va dire, ma première. J'avais fait le Lavaredo. Donc non, t'as quand même beaucoup de différences. La Saint-Élion, t'as des montées grand maximum de 500 de dénivelé. Là, on avait quasiment 1009 entre Martigny et les Tseppes en haut. C'est belles montées ici. Enfin, on n'est pas épargnés.
Et vous aviez eu une édition particulièrement compliquée, avec des conditions météo assez drastiques. Un parcours qui a été changé en cours de route.
La veille, en cours de route. On vous a rien épargné. Vous êtes vraiment les maudits parce qu'il a fait beau toute la semaine à part jeudi.
Ouais, c'est ça aussi le but de l'ultra, c'est de pouvoir s'adapter à tout ce qui se passe.
On sent le vrai, là.
De changer, donc du coup, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça rajoute,
parce que tu connais tous les chemins, toi.
C'est vrai, du coup, c'est facile de dire ça quand tu connais.
Je vais t'envoyer aux États-Unis et la veille, je vais te changer les parcours.
Mais c'est aussi ça pour ça qu'on veut faire du long, c'est pour pouvoir découvrir des choses et s'adapter. Donc, si on n'est pas capable de s'adapter, c'est peut-être pas la meilleure distance à faire.
Oui. Ça te change du cours, toi, qui t'avais fait de la course sur route, notamment, t'as des pairs sur 5 km qui sont assez astronomiques.
J'ai vu en mois de février 14h40
14h38 même.
38. Ouais, sous les 40, je crois.
Cannes. Bravo, c'est bien. Hein.
Non, j'étais trop content. Enfin, je trouve que c'est quand même. Même si entre 5 kills et 100 kills, il y a beaucoup de choses, c'est très complémentaire.
Il y a 11 heures d'écart.
Il y a 103 km, vu que vous avez fait 108, il y a 103 km d'écart.
Mais au moins, moi j'aime bien faire des choses différentes parce que c'est.
L'hiver,
on n'est pas lassé. Du coup, on est content dès qu'on fait quelque chose, quand on change.
Mais c'est un bon chrono. Hein.
Alors pourquoi tu te mets sur l'ultra trail notamment? Quelle a été cette volonté et d'où est venue cette volonté de transition?
J'avais envie surtout de tester, ça fait beaucoup d'années où je fais des formats plus 40-50 km, 4-5 ans. Et j'aime passer du temps en montagne aussi, et du coup l'ultra c'est aussi une façon de s'entraîner on passe plus de temps dehors, on peut voir plus de paysages. Bon, sauf hier, mais bon, je connaissais vu que je suis local.
Oui.
Et du coup, je me suis dit, ben, je vais pas faire que ça forcément tout le temps, mais ouais. Bon, allez, ça change. J'ai déjà fait deux fois l'OCC, donc cette année, j'ai pas envie de la refaire. C'est après quand, en plus, l'année c'était mal passé, et du coup, je voulais pas me mettre la pression dessus. Donc, du coup, je suis là, bah, c'est l'occasion parfaite pour découvrir une nouvelle course et, ouais. et profiter.
T'es fini notamment 6e de l'OCC
en 2023, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Donc là, c'est, tu doubles carrément la distance, c'est assez fou.
Ouais, bah, c'est pour ça que c'est marrant, parce que du coup, ma plus longue course, c'était 58, je pense, avant le départ. Donc quand la veille, on nous dit, bah, c'est plus 80, c'est plus 100, c'est 110. Bon. Moi, je suis là, bon, ça change pas grand-chose. Moi, c'est x2, donc
c'est vrai, voilà, c'est
tant
ça.
Mieux.
Marie, entre 101 et 108 km, t'as vu la différence?
Ouais, quand même. Ouais. Quand même, parce que quand ça faisait 100 km, je regardais ma montre, mais bon, bah, la tour est terminée.
Voilà, je serais douché là, mais voilà. Non. Je suis encore
non, et puis, ben voilà, tu l'as dit, on l'a su la veille, donc il faut adapter. Moi, j'ai dû prendre la frontale un petit peu plus tôt parce que je savais pas finalement où allait tomber la nuit. Tu adaptes aussi ton plan de nutrition parce que tu te dis, bah, tu auras peut-être une heure de plus. Donc non, il y a quand même pas mal de choses à adapter au dernier moment. On l'a su, je sais pas, à 17h. Donc,
ouais, quelque chose.
Et sur le D+, ça vous a ajouté 200 mètres?
De base, ça devait ajouter 400 mètres. Et vu qu'après, ils ont changé le parcours en course, on a reperdu 200 sur la fin.
Okay. Ouais.
Donc on a quand même eu 200 en bonus.
Comment ça se passe pendant la course? Qui est-ce qui vous annonce que le parcours a été changé? Marie, Anthony?
Moi, c'est mon assistance.
Moi, c'est mon coach aussi qui était sur le parcours et qui me l'a dit dès qu'on s'est vu au premier point au bout de 40 km.
Okay, tu reçois un texto, c'est ça? Raconte-moi un peu.
Quand les coureurs lambda qui n'ont pas d'assistance, eux, ils reçoivent un
texto.
J'ai
vu le texto quand je suis arrivé, que j'ai pris mon téléphone
à la maison. Entre mais les 12 notifications pour te féliciter.
Il m'a dit, bah, un parcours. Mais en plus, c'était assez cool parce que il m'a dit, bah, je te dis juste, à la fin, il n'y a plus la flégère. Par contre, maintenant, t'oublies, tu gardes ta course, tu changes rien de prévu. Mais juste, il voulait me prévenir quand même, mais sans que ça change.
Sans que ça te perturbe.
Sans que je me dise, ah, c'est plus court, du coup, je vais plus vite et tout. Il avait vraiment cet aspect aussi de contrôle, mais quand même de prévention.
Pour pas arriver devant le fait accompli sur le.
Ah ouais. C'est fou. Marie, tu finis 9e féminine de la course dans une typologie assez dense. On a Casper Sen, McKen notamment dans le devant de la course. Il y avait un gros peloton sur cette course de la CCC. À quel point tu es satisfaite justement de ta course et de te hisser parmi ce peloton mondial?
Déjà à la base, j'avais, je pense, la 19e Cotitra. Ouais. Donc tu te dis que tu gagnes quasiment 10 places. Rentrer dans un top 10 à Chamonix, vraiment, je pense que c'est l'objectif. Quand j'étais 9, j'avais quand même bien peur. Parce que tu te dis, ok, il me restait 17 km. Et je savais que les filles, elles n'étaient pas non plus très loin. On avait 3 minutes d'écart. Donc à la fin, j'ai quand même bien tout donné. Parce que tu te dis, là, t'es 9. Même si tu fais une belle course et que t'es 11, ça change quand même la donne. Tu ne montes pas sur le podium à Chamonix. Donc je me disais que c'était une occasion qui n'allait pas non plus se représenter plein de fois. Donc il fallait la saisir dès maintenant.
On a suivi ta course sur le live track, tu as eu un départ assez prudent, en tout cas c'est ce qu'on a vu. Tu t'es stabilisé autour de la 17e, 16e place avant de remonter et de finir dans ce top 10. C'était la stratégie du jour?
C'est des stratégies qui me vont plutôt bien. J'ai déjà essayé l'inverse.
Et ça finit mal.
Ça finit mal, hein. J'ai des gros moments, des passages à vide. Et en vrai, quand tu as cette dynamique où tu rattrapes du monde, et ben dans ta tête, t'es un warrior, tu te dis allez, trop bien.
Ça c'est comme sur marathon quand t'as un négatif split et que tu remontes.
T'arrives à avoir des pensées positives, alors que si tu commences à te faire rattraper,
que t'es que dans la résistance et essayer de lutter,
c'est compliqué. Et
puis j'imagine que même les mots de ton assistant sont un peu plus positifs quand tu remontes.
Oui.
Quand tu sens
tu reprends, ça craque devant.
Exactement. Ouais. Plutôt que allez encore un.
Là c'est bien ça. Et du fait tu le ressens quand t'es coureur. Tu vois aussi comment les assistants évoluent et tout, donc c'est cool de voir que ça va dans le bon sens.
Surtout quand tu viens des distances pareilles un peu plus courtes et que c'était un peu un grand saut dans l'inconnu, donc t'évites de prendre des risques un peu inconsidérés.
Globalement tu sais que tu peux tenir. Moi j'avais fait jusqu'à 80. C'est un peu le point d'interrogation. On verra comment le corps réagit, donc je pense qu'il faut être quand même humble, surtout quand on a autant de dénivelé. Pour moi en tout cas, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même pas mal. Être plutôt humble, je pense que c'est pas mal pour une première.
Sur des efforts comme ça, t'as pas le droit à l'erreur en plus.
C'est clair. Racontez-nous un peu cette météo, alors, drastique.
Déjà, l'attente dans la, sur la ligne de départ, quand tu prends des sauts de flotte... quand
bah, ça met direct dans le bain.
Direct dans le bain, ouais, ouais, tu sais que t'étais...
On a tous sorti nos vestes, mais après t'es quand même mouillé, du coup tu te dis bon.
Parce qu'à juste avant le départ,
Ouais, 20 minutes avant le départ.
À l'échauffement, ça allait. Tu sais, à l'échauffement, t'essayes de pas mouiller tes chaussettes, exactement, tes chaussures. Et puis après, t'es sur la ligne.
D'ailleurs, je voulais. C'est la question que je me posais hier sur l'échauffement. Vous faites quoi exactement? Vous faites run, des gammes
Pas grand chose. Moi, j'ai trottiné 8 minutes.
Ouais.
Et ensuite, j'ai fait un peu de mobilité dans le sens de départ.
Ok.
Mais c'est tout.
Et toi?
Ouais, alors moi, je viens de l'atteler.
Bah ouais, c'est pour ça.
Donc moi, j'ai gardé mes habitudes.
J'imagine pas me dire tu vas faire une course et tu t'échauffes pas, tu vois.
Non, ouais, alors j'ai un peu réduit. On va dire qu'avant, j'aimais bien faire 20 minutes.
Ouais.
J'ai fait 15 minutes. Mes petites gammes et mes lignes. Parce que ça part quand même.
Ça reste. Ouais. Elle a mis les pointes. C'est la seule, elle a mis les pointes. Elle a fait des lignes
dans l'herbe.
Ouais, dans l'herbe en 18 secondes.
Non, mais en fait, on a des départs ultra rapides.
Ça part vite, ouais.
Ultra rapide. On rentre dans le sas quasiment 20 minutes avant. Donc
une demi-heure, même. Ouais. Vas-y, ouais.
Donc, je trouve que c'est quand même pas mal de faire quelques lignes droites, quelques accélérations, juste pour se mettre un petit peu dans le bain, quoi.
Vous, à l'inverse de l'UTMB qui part sur un 10 bornes à peu près plat, vous, ça monte direct.
Ouais, ça part. Il y avait 500 mètres de descente, et après c'était direct sur route, mais ça montait. Ben,
ça monte, ouais.
Ouais.
Donc si t'es pas. Si le cardio il est encore à 45 et que 2 km après il est à 160, ça fait mal.
Après, des fois, c'est bien de pas être trop gelé, sinon tu pars vite trop fort. Oui. Donc si t'es pas trop prêt, on va dire physiologiquement, ça peut être une aide.
Là, on avait une montée, je sais pas, de 1004, je pense.
Ouais, dès le début. 1004, au bout de. En 10 bornes, quoi.
C'est mieux de gérer, ouais.
Ouais. Sachant qu'en haut, on s'est pris le vent plus, enfin on était tous avec la veste en train de se dire ok, c'est la première montée, ça va être rock'n'roll la suite.
Plus que 101 km.
Ouais, vous avez chuté?
Moi sur la fin, mais pas du tout dans la boue.
Ok,
mais,
sur un caillou.
Ouais, plus.
Faute d'inattention.
Alors
dans
je
la
sais
nuit.
Pas comment elle s'appelle, la dernière descente qu'on a pris qui était un
c'est
petit peu technique.
C'est la nouvelle, ceux qu'ils ont modifié, ouais.
Et bon,
elle
là.
Elle a pas vraiment de nom.
Elle a
le local de
l'étape. C'est chez moi, mais
comment
il y a pas de
s'appelle le com? Dis-nous. Tu dois le savoir, le local de.
C'est le bois de la trappe.
Ah voilà.
Ouais, il a la réponse à tout. C'est exceptionnel.
J'adore, j'y passe tout le temps là-bas.
Donc le com, il est vraiment à toi.
En montée, oui, pas en descente.
En fait, il est de mèche avec l'organisation.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Non.
C'est lui qui a tout coupé.
Non, ça c'est malheureusement. Mais ça fait aussi une belle fin de parcours.
C'est lui qui fait les parcours de repli, évidemment. Ouais.
C'est vrai qu'on a vu des vidéos en haut où on voyait tellement de vent que les personnes avaient même du mal à avancer quelquefois. Ça vous est arrivé également?
Pas au point de ne pas avancer, mais typiquement...
Oh, j'ai pris encore là-haut.
Ouais. Quand j'ai voulu mettre la veste, je me suis mis un peu tard. On était déjà, on avait vent de face. Ah, oui. À la toute fin,
et
on
là,
tournait.
C'était compliqué. Là, ça, t'as fait
j'ai mis
mal.
Deux minutes à réussir à la mettre et je me suis dit, si je la lâche, je la perds.
Ouais.
Et après, je suis mal.
Du coup, faut expliquer à l'équipementier, j'ai perdu la veste.
faut rester concentré parce que du coup, faut quand même prendre le temps de la mettre. Parce que si tu dis, moi j'arrive pas, je la range dans le sac, c'est un coup à prendre froid, ça foire ta course. Mais en même temps, il faut pas non plus s'arrêter parce que c'est tellement dense ces parcours. Donc voilà, faut travailler sur soi et se dire, ok, bon bah je vais prendre.
T'as senti le froid sur le ventre par moment là les...
quand tu Non, après j'avais mis la veste du coup dès que je pouvais quand même. Pour, puis après, on avait le ventre plutôt de dos. Donc mine de rien, ça nous a aidé sur tout le balcon parce qu'on avait moins. On avait moins ce froid qui nous
touchait. Qui te frappe quand il est de face. Ouais.
Il y a une ascension assez emblématique dans cette CCC, c'est le Grand Col Ferré. Comment vous l'avez vécu? C'est assez technique, c'est assez raide en même temps. Il peut y avoir du monde également. Alors avec la pluie et le vent, je ne suis pas sûr que vous ayez pu profiter de cette ambiance-là. Mais comment tu l'as vécu toi, Anthony?
J'ai bien aimé. Après, j'avoue que c'était un peu... J'étais un peu stressé parce qu'après, il y avait la longue descente. C'était
la partie Valercine.
Qui était vraiment... qui challengeuse dans le sens où il y a quasi 20 bornes de descente entre le Grand Col Ferret et le bas de la montée de Champellac, et je savais que c'était là où tu peux foirer ta course. Donc dans la montée, j'essayais de me dire c'est un peu mes points forts, donc on va essayer de pousser un peu, mais je vais quand même faire gaffe parce que je veux pas que je m'enflamme. En plus là-haut, c'est à nous, il faisait froid. Donc au moins on a peu été trop distrait par le paysage, parce qu'il y avait rien à voir. Donc ça permettait de rester concentré sur soi-même et sur l'effort. Puis on voit quand même toujours les coureurs qui sont au-dessus, devant, donc des fois tu te dis punaise, ils sont déjà loin, ou alors en fait non, c'est pas si loin que ça. Mais tu sais que quand t'as passé là, après, ce qui est bien, c'est que...
C'est la dernière grosse intensité en termes de montée.
Non, mais après, en fait, on arrive à la foulie, là où il n'y a pas de ravitaillement, enfin, il y a un ravitaillement, mais sans assistance. Mais c'est là où tu tu commences à voir ta famille, tes proches qui suivent la course. Du coup, machin, ouais, bah trop bien, maintenant on descend et dans une heure je vais retrouver, on va dire, les premières personnes qui me suivent. Donc ça permet de se dire, ok, bah, ça va être cool de faire un petit reset et de profiter d'eux.
Comment tu séquences ta course, Marie,
sur un son ? Par les ravitaux. Grâce au ravito, et justement Anto il l'a très bien dit, le moment où aussi on retrouve nos proches, parce qu'il y a toute une partie au début où on est vraiment seul avec les nuages et
quasi
la pluie.
35 km je pense jusqu'à la folie, un truc comme
ça. Quasiment jusqu'à la folie, ouais. Et c'est vrai que là ça change complètement la course, hein, et je pense que les ravitaux permettent de plutôt bien séquencer. Tu sais qu'entre tel ravito et tel ravito tu dois manger ça, donc tu te concentres sur des choses finalement pour pas trop penser au mauvais temps, puis au fait que t'es encore un petit peu loin dans le classement aussi.
Et pour toi aussi c'était plutôt la descente sur laquelle tu faisais attention plutôt que la montée sur le Grand Col Ferret?
Un Grand Col Ferret, moi je suis pas encore une adepte des bâtons. J'étais surtout concentrée à bien les utiliser, tuer personne derrière.
C'est vrai que ça paraît bête, mais des fois,
c'est dangereux.
Faut faire attention. Les gens qui font pas attention et qu'on est derrière, on s'en rend compte, et moi ça me saoule, du coup j'essaie de faire gaffe.
Oui, mais devant toi, il y a que des professionnels qui.
Oui, mais il y a certains qui aiment bien les avoir à l'horizontale.
Bon. Non, je pense que moi j'ai préféré les descentes.
T'avais repéré les parcours parce que t'es pas d'ici toi.
Ouais, moi j'ai repéré le parcours avec Azix, on a un chalet.
Le camp à Chamonix,
Donc ça nous permet quand même de faire les recos assez facilement. On l'avait fait avec Diane Racineux qui a fini 14e. Et en deux jours, on a pris le bus, on est allé à Courmayeur, on avait pris un Airbnb au milieu.
Ok.
Donc tu pars un petit peu chargé.
Ouais, ah oui.
Parce que du coup tu pars pour deux jours. Donc tu prends ta nourriture pour deux jours. Tes gels, ta boisson, mais au final c'est pas mal parce que tu te rends vraiment compte de la distance.
Ah bah de ce que ça va demander.
J'ai jamais fait deux jours enchaînés 55 km, le lendemain 46 avec le dénivelé, et au final c'est vraiment pas mal. On s'était mis un peu des thèmes. La première journée on faisait toutes les montées actives, et le lendemain on faisait toutes les descentes. Donc ça permet quand même de bien gazer,
Et puis de repérer en mode un peu quand même, avec un peu de tempo, pas que en mode balade.
Oui, parce que ça, même si une reco où tu la coupes trop un petit bout, en fait tout est facile. Et t'arrives sur la course, c'était là en mode, mais dans mes souvenirs c'était beaucoup moins raide que ça.
Je suis moins lucide, ça me paraît plus raide, le petit...
Je me suis perdu, je suis pas passé là.
Mais toi, pour le coup, t'as vraiment une chance assez folle
d'être dans le coin... Enfin, ça reste moi, typiquement, la partie suisse,
les 40
kilomètres, j'ai découvert cet été, mais j'ai fait qu'une fois sur un jour de reco. Enfin, moi je reste plutôt quand même secteur dans la vallée de Chamonix. Et j'essaie de pas trop courir sur le sentier de la course pour rester motivé. Mais c'est vrai que visuellement, le fait de connaître visuellement aussi les sommets, les montagnes, t'arrives à te localiser. Enfin, en vélo, quand je prends les routes, je sais où je suis. Donc, c'est quand même aussi, je pense, enfin, c'est un atout.
J'ai lu que tu viens du tennis.
J'ai fait beaucoup de tennis en effet pendant 10 ans.
Wow. Pendant 10 ans, c'est ça ? En compétition ?
Ouais, pas 10 ans de compétition, mais j'en ai fait pendant 10 ans. J'ai dû faire,
jusqu'à quel âge ?
J'ai arrêté à la fin du lycée, quand je suis parti en études secondaires.
Et là, t'es mis à courir.
J'étais en archi, j'avais pas le temps de faire du tennis. Déjà, faut trouver quelqu'un pour jouer. Tout seul, c'est beaucoup moins drôle.
Faut courir.
Et c'est là
après
que je me suis dit, mais en fait, c'est bien de courir. Tu prends tes chaussures, tu vas quand tu veux.
C'est plus simple, ça prend moins de temps.
Tu t'organises pas, ça prend moins de temps.
Tu peux partir
là
où tu veux.
Je suis tombé dans cette nouvelle passion.
C'est dingue, j'ai la même histoire en plus.
Tu viens du tennis,
toi ? J'ai fait du tennis pendant 8 ans. Et ensuite, je suis parti en école de journalisme. Il y avait moins de tennisman. En plus, nous, on s'entraînait le soir entre 22 et 23 heures. Et donc, avec les études, le boulot à côté, j'ai arrêté le tennis. Et je me suis mis à courir. Parce que, en fait, où que tu ailles, en fait, tu peux mettre tes chaussures.
C'est un vrai simple, en fait. C'est un tout ce sport.
Donc, c'est vraiment trop bien. Et l'école d'architecture, alors, c'était allé jusqu'à où ?
Jusqu'à la fin, jusqu'au master.
Alors t'en penses quoi de notre camp de base ? Est-ce qu'il est bien monté ?
On est bien protégé du soleil. Ouais. Ça c'est bien ça.
Il va pas s'écrouler.
Après j'aurais pas dit non un petit sauna aujourd'hui, mais pour le moment ça m'a l'air stable. Je suis pas trop inquiet.
Marie, toi tu viens de l'athlétisme, un gros passé. Moi ce que j'ai vu, c'est dizaines de championnats d'Europe off-road également. T'étais entraînée à Décines Misu Athlétisme.
Gros club d'athlètes. Hein.
Exactement, en plus. Ouais. Ils ont fini champion de France.
Ils gagnent tous les relais. En ce moment, ils sont chauds avec le groupe de Bastien Perrault.
J'ai commencé avec Bastien.
C'est vrai qu'elle connaît toutes les gammes et c'est la pro de l'athlète.
Bastien, il a un super groupe de demi-fond. On était vraiment un gros groupe de filles. On pouvait vraiment se tirer. En plus, maintenant, il y a le pôle à Décines.
Et toi, tu as pris la tangente assez tôt.
pour filer au trail.
Ouais, sur le trail, ouais.
Et ben moi, ça a été un peu. Je suis arrivée dans le trail un peu par hasard. C'est que pendant le Covid, donc tout était annulé, France de Cross, voilà. Et ASICS avait lancé un programme de détection des jeunes talents, le Trail Elite Factory. J'ai participé et j'ai gagné.
Et depuis, boum. Un esprit sain dans un corps.
Mais en fait. Quand j'ai signé mon premier contrat, donc c'était fin 2020, on a vraiment continué progressivement. Enfin, je faisais des 20 km en trail, mais j'allais encore au France Elite sur 3000 mètres steep, quoi. On n'a pas.
Tu n'avais pas décidé.
Non, mais on a multicarte. Fait vraiment progressivement les choses. Et après, bon, plus t'augmentes, plus c'est compliqué. Tu peux pas faire un 80 et la semaine d'après un 3000 mètres steep.
C'est deux mondes différents.
Les ischios. Il y aurait eu quelques déchirures, quoi.
Ah oui,
surtout sur steep. Il faut être assez explosif.
Mais c'était ça qui était bien, c'est que finalement, on a gardé tout ce qui fonctionnait, mais petit à petit, on a changé des choses pour hier passer sur 100 km.
C'est dingue ça d'avoir justement cette transition entre la route, la clé, la piste, le tartan.
La piste, c'est pire.
C'est clair, et l'ultra trail.
Mais après, il faut que ça se fasse de façon progressive pour bien l'encaisser. Ouais.
Tu penses que tu as des qualités athlétiques assez innées qui te permettent de performer ici en ultra trail?
Innées, je dirais pas que c'est innées.
Enfin,
innées,
acquises.
Quand tu commences avec l'école d'athlé et que tu fais un petit peu tout, moi je trouve que l'athlé, les cross, c'est un super moyen pour. Progresser plus tard parce que tu donnes déjà les enfants ils ont déjà un bon pied, ils font des gammes tôt,
t'es coordonné,
t'es placé,
tu connais les fondamentaux.
Et en fait, quand tu regardes ceux qui sont en trail devant, tout le monde court vite.
C'est vrai.
Sur 10 km, c'est terminé le trailer qui fait 40 minutes au 10 km. Enfin, ils courent tous en moins de 30 minutes.
Bon, Anthony
Je cours pas en moins de 30 minutes.
Pas encore.
Ouais, t'en es pas loin.
30-03, c'est ça?
Ouais.
Ça va.
Au moins, ça donne une excuse pour y retourner.
Oui.
Tu comptes y retourner?
Bah, c'est quand même que je passe sous les 30.
À la prom en janvier.
À la prom en janvier.
Janvier, c'est un peu. Non, je serais plutôt tenté par le prochain marathon cet hiver. En refaire un.
Il y a de la neige à Chamonix.
Il y a des tapis aussi. J'aime bien le tapis.
Énorme. Bah, écoutez, merci à vous pour ce beau débrief. On vous souhaite plein de réussite pour la suite et à la fin de ce podcast.
On s'est régalé.
Exactement. On remercie également La Folie Douce de nous accueillir ici avec ce beau plateau. Dans quelques moments, on aura l'arrivée du format 100 miles.
Dans
à l'UTMB avec ton beau Ben.
C'est notre poulain, Ben. elle connaît certainement encore mieux que moi. Hein.
Qui fait une performance absolument astronomique.
Ouais, là, ça va être la fiesta ce soir à l'OTMB. C'était déjà la fiesta l'année dernière.
Mais alors là.
Mais là, c'est cool. Enfin, Ben, l'année dernière, il avait fait deux. Et c'est vraiment mérité. Là, il l'avait annoncé.
Il avait l'air en forme. Et puis il a fait la course tout seul devant.
Du début à la fin.
Il a dit, les gars, c'est moi le patron. C'est
exactement.
Et Baptiste également juste derrière, qui on l'espère finira deuxième.
Alors, portons pas la poisse, mais ils sont pas arrivés. On va passer peut-être pour des pinces.
Il reste encore une heure et demie de route. Mais en tout cas, à l'heure où on enregistre, les deux sont bien partis pour être top 1 et top 2. On fera le débrief de l'UTMB dans un prochain podcast. Demain.
Avec Blandine Hirondelle. Lui, portons pas la poisse non plus. Elle est pareil.
Elle est très bien partie également. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce podcast et puis pour terminer, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer.